bonjour, l'émission La Voix des Poètes sur Radio Altitude. Aujourd'hui, donc, j'ai une invitée donc, clermontoise, enfin voilà, une grande poétesse de Clermont, Chantal Dupuy-Dunier. Je suis très heureuse qu'elle ait voulu participer à notre émission. Bonjour Chantal.
Bonjour, ben, je vous remercie de m'avoir invitée.
Je ne vous ai peut-être pas très bien présentée en tant que poète clermontoise, mais vous êtes connue sur Clermont en fait, c'est cela.
Disons que je ne suis pas née en tout cas à Clermont, je suis née en Arles,
voilà, oui.
L'arlésienne invisible.
Voilà, et vous avez vécu très longtemps, enfin donc quelques années, en Haute-Loire, à Crouse.
Oui, une bonne dizaine d'années dans un petit village retiré de l'ouest de la Haute-Loire.
Voilà, donc auquel vous avez dédié un recueil.
Tout à fait.
Alors donc merci encore. Hein. Alors je vais peut-être vous demander de vous présenter un petit peu, du moins déjà de nous dire, puisque vous avez écrit beaucoup de recueils, vous avez reçu pas mal de prix aussi.
Un seul prix.
Un seul prix.
Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'essentiel.
Oui, donc ce qui vous a poussé à écrire, et donc si vous écrivez depuis très longtemps, et quelle est votre façon d'écrire? Je crois que vous m'avez dit que tous les jours vous vous astreignez à vous asseoir et à écrire.
Alors c'est à la fois une astreinte et un plaisir, c'est mon mode de travail, c'est bon, j'écris au moins tous les après-midi. Et ce qui m'a poussé à écrire, c'est différentes choses. Je dirais d'abord que tout banalement, on décrit beaucoup l'école à l'heure actuelle, mais moi c'est l'école qui m'a poussé à écrire et je lui en suis infiniment reconnaissante. À l'école primaire, on nous apprenait des récitations, on appelait ça comme ça. Et je suis tombée en arrêt devant les récitations, devant les poèmes, devant cette langue qui m'a parlé d'emblée. Et j'ai eu envie d'en lire d'autres et d'en écrire, de m'essayer à en écrire assez vite à ce moment-là. Il y a eu aussi d'autres choses. Il y a eu quelque chose d'assez amusant qui vient de mon père. Mon père n'était pas poète, mais c'est quelqu'un, toujours, qui, très fantaisiste. Et quand j'étais petite, il me lisait Le Corbeau et le Renard de la façon suivante. Le cornard et le robot. Maître Corché, sur un arbre perbeau, tenait en son mâche un frobec. Bon, je vous fais grâce de la suite, mais alors ça a l'air de rien comme ça, ça a l'air d'une petite anecdote, les gens doivent se dire où est-ce qu'elle veut en venir avec ça. Eh bien, ça m'a montré qu'on pouvait jouer avec le langage, qu'on pouvait faire autre chose avec le langage que ce que l'on en faisait au quotidien, tous les jours. Dans la prose quotidienne.
C'est une anecdote tout à fait adaptée, oui. Donc on peut manipuler les mots, jouer avec eux, oui. C'est d'ailleurs un petit peu le principe de la poésie vivante, hein, donc la poésie, les scènes ouvertes de poésie, de slam un petit peu aussi, donc d'une façon un peu... peut-être un peu indirect, oui. Alors, vous dites aussi, dans une lettre que vous m'aviez adressée, c'est aussi une nécessité vitale pour donner un sens à ma vie.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a comme ça des choses dans la vie, les gens appelleraient ça des passions, mais le mot n'est pas tout à fait adapté. C'est une passion et c'est un travail qui font que ça donne un sens à une vie qui pour moi n'en aurait qu'un sur un plan strictement biologique. Alors avec d'autres choses bien sûr, il y a l'écriture, il y a l'amour, il y a l'amitié, donc l'écriture et les relations privilégiées avec d'autres.
Bien. Vous disiez aussi, donc, dans votre lettre, que le poète était un artisan. Donc ça, c'est peut-être votre père qui vous l'a un petit peu inculqué. Hein. Donc un ouvrier du langage.
Oui, je dirais même un ouvrier du langage. C'est-à-dire que pour moi, la construction d'un livre de poésie, ou même simplement déjà du poème, c'est comme la construction d'un édifice. Peut-être d'une cathédrale quelque part, au sens pas forcément religieux. Hein. Et chaque poème est une pierre et nous les poètes, des artisans du langage, tout simplement. Nous travaillons ce matériau-là qui est la langue.
Et est-ce qu'au départ, il y a donc un appel donc de l'intérieur, quelque chose de peut-être un petit peu viscéral aussi, qui vous fait jeter des mots sur la page, ou est-ce que c'est d'abord ça et après la construction ?
Alors, la fameuse inspiration,
oui, c'est ça.
Bien que le mot n'ait pas été prononcé, voilà. J'entends bien, je ne la renie pas, elle existe, mais on ne sait pas d'où elle vient et je ne pense pas qu'elle soit magique. Je ne crois pas à l'inspiration qui tombe comme ça, on claque des doigts et le poème arrive. Ça, par expérience, ce n'est pas ça. Alors, d'où vient-elle ? Moi, il y a un tas de choses qui me font signe. Qu'on peut appeler l'inspiration, ça peut être des choses qui viennent de l'extérieur, comme dans Initial, des initiales gravées sur un mur, des choses qui viennent de l'intérieur, comme certains ressentis, certains sentiments. Et après, il y a le travail, justement, de l'œuvrier de la langue, sans lequel le poème ne peut pas exister.
Donc une vision très, très, très sage, un petit peu de la...
C'est peut-être le privilège de l'âge.
Voilà, peut-être, oui. Alors, donc, vous avez écrit donc, un certain nombre de recueils, et j'ai choisi de commencer par Éphéméride. Est-ce que vous souhaitez que je présente tous vos recueils d'abord
Vous faites comme vous le désirez, mais si on doit parler d'Éphéméride aujourd'hui, il vaut mieux présenter celui-ci peut-être pour commencer.
Voilà, ben on va commencer par Éphéméride. Hein. Donc, Éphéméride qui date de
2009.
2009. Alors, vous dites, donc Éphéméride, c'est un poème, c'est un recueil où vous avez écrit un poème par jour.
Oui, c'est une contrainte que je me suis donnée, oui. Parce que justement, j'avais envie d'effectuer un travail sur le temps. Et là, ce qui a fait signe, c'est tout simplement une éphéméride que j'avais sous les yeux, qui est dans mon entrée, sur laquelle je note tous les jours ce que j'ai à faire. Beaucoup de personnes ont ça, ou un agenda. Le temps est un sujet qui m'a toujours intéressée, préoccupée, que j'ai déjà abordé de différentes façons. Et là, au fond, c'était une façon très simple apparemment de l'aborder, tout simplement, chronologiquement, jour après jour, pendant une année. Mais qui dit temps, dit aussi mémoire. Mmh. Donc il y a dans ce recueil un tas de fils rouges qui sont tissés, qui s'entrecroisent, et beaucoup de poèmes qui font référence à quelque chose de l'ordre de la mémoire, mémoire de l'enfance, mémoire des grands-mères, oui. La grand-mère des villes et la grand-mère des champs.
Voilà. Oui, moi j'ai noté, donc ça va être le fil conducteur, j'attendais le temps d'écrire, le temps quotidien vécu, le temps de l'instant, le temps à venir et le temps de la mémoire. Donc ça va être, ma présentation va être un petit peu échelonnée donc selon ces moments-là. Par contre, je vais commencer par une citation que vous m'aviez donnée dans votre lettre, hein. Citation de René Daumal qui écrivait « La prose dit quelque chose avec les mots, la poésie fait quelque chose avec les mots ». J'avais envie de commencer par ça, et donc je trouve que votre recueil Éphéméride fait tout à fait écho à cette citation. Alors justement, j'ai ouvert au hasard, donc le 20 avril, hein, on va commencer par le 20 avril, une citation qui m'a inspirée, qui me semble bien répondre à celle de René Daumal. Il faudra m'excuser, mais il faudra que je retrouve les pages. Hein. Alors le 20 avril, voilà ce que vous écrivez. « Exiler les mots au fond des caves humides pour éprouver leur faculté de secret ou voir apparaître la rouille à leur trop vieille surface, les conduire vers la temporalité limitée d'une empreinte ou les garer, sans attendre, sur la voie de la casse, vinification avant la décharge ou d'emblée la décharge. » Donc on voit bien que c'est un travail sur les mots.
Tout à fait. Et puis, par rapport à ce qu'a dit Daumal, oui, vous avez ressenti ça, ben j'en suis ravie. J'espère être justement dans ce langage agissant qui est celui de la poésie. Il y a le langage quotidien, effectivement, la prose de tous les jours, ce que je disais, ça n'a rien de dévalorisant, hein. On en a besoin pour la communication, bien entendu, et c'est très important. Mais la poésie n'est pas un langage banal, n'est pas un langage simplement de communication, même si évidemment on dit quelque chose qui s'adresse en théorie à quelqu'un. C'est un langage agissant en ce sens qu'il est héritier des prières et des formules magiques. La poésie au départ était orale. Et c'est ce qui demeure et ce qui est, ce qui doit en théorie être agissant.
Oui, et ce qui doit rester. Alors vous dites là, les mots, les conduire vers la temporalité limitée d'une empreinte.
Oui.
Donc il y a une empreinte, mais vous êtes consciente qu'elle est limitée.
Ah, tout à fait. Et plus j'avance dans la vie, plus j'en ai conscience, c'est sans doute normal. J'en ai conscience depuis très longtemps d'ailleurs au niveau de l'écriture. Notre civilisation, ce n'est pas du pessimisme de ma part, c'est un constat historique concernant les autres civilisations. Notre civilisation, je pense, est appelée à disparaître un jour. Notre langue est en train de se modifier, comme elle s'est déjà modifiée dans le passé. À l'heure actuelle, on est obligé de traduire des auteurs qui écrivaient en vieux français parce que personne, sauf quelques universitaires spécialisés, personne ne comprend plus rien à cette langue, à ce vieux français. Donc j'ai conscience, justement, il y a un jeu de mots bien sûr aussi dans le titre de cette éphéméride, de ce qui est éphémère, justement, dans notre écriture et dans toute chose. Et au fond, quand on sait ça, quand on a bien assimilé ça, on n'est pas malheureux. Je crois que ça aide peut-être à même donner encore davantage de sens à l'acte presque dérisoire que l'on accomplit en écrivant de la poésie.
Et ça donne un sens aussi à notre existence.
Oui, oui, mais ça ne l'empêche pas, bien sûr, d'être tout aussi temporaire que les civilisations,
oui,
et la langue.
Alors, dans cette page-là que je viens de lire, il y a aussi vinification avant la décharge. Vinification, c'est le travail.
Oui, c'est ça. Quand j'écris, et comme beaucoup de personnes, je pense que tous les poètes font ça. Enfin, il y en a qui ont peut-être des façons de faire différentes. J'écris, je laisse reposer le travail, et je le reprends, je vois si ça résiste ou si ça ne tient pas la route. Et je n'hésite jamais, parce que maintenant j'ai acquis du métier, c'est toujours difficile de le faire au début quand on commence, je n'hésite jamais à jeter, à renoncer.
C'est très difficile, ça.
C'est très difficile, mais c'est comme la greffe sur un arbre fruitier.
Oui, ça marche ou ça marche?
La même chose. Oui. Non, ça marche souvent, mais il faut couper pour que l'arbre porte des fruits.
C'est exact, oui. Alors donc, ce travail aussi d'écriture, vous le redites le 25 mai, hein, dans l'encoche des non-dits, le poète cherche à rapprocher les bords, à remailler les lignes. Les sapins, eux aussi, allongent leurs doigts neufs vers le ciel pour tenter de réparer l'espace. Les poèmes sont des arbres. Donc, effet réparateur aussi, effet salvateur de l'écriture.
Oui, bien sûr. Et puis, oui, cette comparaison avec l'arbre, elle est presque banale. Elle s'impose parce qu'il y a la même verticalité dans le poème que dans l'arbre.
Oui, vous enfoncez le poème aussi dans l'existence.
Dans l'existence et dans les poèmes précédents aussi. Les racines du poème plongent dans les poésies passées aussi.
Oui. Alors, les poésies passées, les vôtres et ceux des autres?
Tout à fait. Surtout d'ailleurs ceux des autres.
Oui.
Enfin, les miennes aussi, parce que je vais employer un mot, je ne voudrais pas qu'il soit pris de façon présomptueuse, mais cela s'appelle comme ça, l'œuvre s'édifie avec une certaine logique,
oui,
une chronologie forcément, des fils rouges justement, des autoréférences. Donc il y a ces racines-là, et il y a toutes les racines antérieures qui nous ont nourris, qui nourrissent cet arbre justement de la poésie.
Alors je lis encore le 4 avril, hein. « J'écris simplement pour les saisons et les déplacements des oiseaux migrateurs. J'écris pour les recommencements, le regard aux aguets du jour et des cygnes, quelques années encore. J'écris surtout parce que je ne peux pas dire pourquoi j'écris. »
Oui.
Oui.
C'est difficile d'ajouter quelque chose,
oui,
là.
Oui, c'est vrai, oui. Mais enfin, là, on a l'impression que les mots vous permettent effectivement de croire à l'éternel retour, hein, de fabriquer du temps. Hein. Mais là encore, vous, on le ressent ici, rien n'est vraiment sûr puisque vous dites le regard aux aguets du jour. Hein. Donc il n'y a pas de certitude.
Hein,
donc...
On n'a jamais la certitude, oui, que notre regard verra le jour d'après.
Oui, ça c'est sûr.
On aimerait.
Oui. Quelques années encore. On aimerait que ça dure quelques années encore, oui. Alors donc, éphéméride, donc dans un reportage qui s'appelle Cerise Press sur Internet en fait, c'est une entrevue qui est faite par une Américaine, je crois.
Oui, c'est une jeune poète américaine qui s'appelle Darla Imless, qui enseigne d'ailleurs la poésie à l'heure actuelle à Philadelphie. Elle m'a un jour contactée parce qu'elle elle avait cherché un livre... d'une poétesse française écrite en français pour s'en servir de sujet pour sa graduation. Et nous sommes rentrés en contact. Elle a traduit quelques poèmes d'éphéméride et elle a réalisé donc une interview qui est publiée sur ce site de Cerise Press.
Très bien. Alors justement, vous dites, éphéméride, vous écrivez que vous avez passé pour éphéméride à une écriture au long cours avec un autre rythme, une respiration plus ample. Donc vous avez dit vous étiez donné la tâche de vivre votre poésie au jour le jour, avec parfois l'angoisse de ne rien trouver à écrire le lendemain et de ne pas pouvoir terminer la course. Donc angoisse existentielle, angoisse donc face à l'écriture. Et ça a marché.
Oui, ça a fonctionné. C'était une expérience très intense, mais que je continue à vivre, mmh, parce que depuis, je n'ai pas cessé de fonctionner comme ça. J'étais en manque, enfin, c'était devenu comme une drogue. Mmh. Et même si au début, ce rythme était un peu plus difficile à trouver pour moi que lorsque j'écrivais des recueils d'une cinquantaine de pages, par la suite, c'est devenu une véritable addiction. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que je souhaitais, c'était ce que je cherchais. Et effectivement, ça occupait toutes mes journées, parce que le soir, je m'endormais en me disant « qu'est-ce qui va faire signe demain ? Est-ce que quelque chose va faire signe ?» Enfin, et ça a été une année très intense.
Oui. Donc vous avez terminé la course, mais donc avec grue de papier, vous avez un petit peu poursuivi cette nécessité d'écrire... quotidiennement
Oui, après j'ai effectivement commencé l'écriture de 1000 grues de papier dans la foulée et ça procède de la même démarche, même si le sujet est différent, la démarche d'écriture est la même que dans Éphéméride.
Oui, ce qu'on peut ressentir, donc on le présentera donc dans une autre émission. Alors donc, écrire tous les jours pour essayer d'imprimer son empreinte, hein, tout en ayant bien conscience que votre écriture, comme la vie, est éphémère. Alors je vais vous lire un poème qui a été écrit le 30 décembre. Hein. « Après, ça meurt en tant que neige, comme ça meurt dès que je nais, ordre de dissolution. » Donc c'est une vision assez donc très lucide de la vie en fait. Hein. Donc ça meurt... Oui. Dès que je nais.
Oui, c'est même une banalité. Oui. J'ai essayé de la formuler de la façon la plus brève, qui pour moi est souvent la plus poétique, parce que j'écris d'une façon très resserrée, en élaguant justement. Oui. Mais c'est un constat somme toute assez banal, effectivement. Dès que nous naissons, l'affaire est pliée, si j'ose dire.
Oui. D'accord, mais alors le 31 décembre, un petit peu plus optimiste, hein, l'année s'achemine vers sa fin et vers son début, simple question de point de vue.
Oui, alors heureusement il y a le point de vue optimiste, parce oui, que sinon ça serait sinistre, plus que pessimiste encore. Et à vrai dire, je ne suis pas d'ailleurs quelqu'un de pessimiste du tout. Les choses réalistes, par contre, ne peuvent pas me rendre optimiste. Je suis lucide, mais je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Je suis même aussi quelqu'un d'assez joyeux dans la vie.
Alors, le 1er janvier, vous écrivez d'ailleurs, « Le nom s'inscrit d'un chiffre 9, prononciation, consonne différente. Ce filigrane apparaîtra derrière toutes les journées et les textes à venir, hein, de décembre à janvier, du 31 au 1er. » Voilà. Mais écoute, on va peut-être illustrer ces quelques premiers poèmes avec un extrait du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Je trouvais que ça allait très bien, donc cette notion de transformation du cygne, donc voilà. Donc je reviens à cette idée d'écrire chaque jour, de poursuivre, hein, donc de poursuivre pour un petit peu gagner du temps. Hein. Donc c'est l'angoisse de l'homme en tant qu'espèce. Hein, donc c'est vous-même qui l'écriviez, je crois. Angoisse caractéristique, car si l'on ne poursuit pas, c'est que l'on va mourir. Hein. L'homme qui veut poursuivre anticipe la mort, se demandant toujours où est le chemin. Alors donc je vais vous lire ce poème que vous avez écrit le 11 janvier. Hein. Où est le chemin ? L'écureuil qui saute d'arbre en arbre et joue à cache-cache. Derrière le poteau télégraphique, ne se posent sans doute pas de questions. Que connaissent de la mort les animaux, les plantes et les pierres ? Que connaît de la mort le poème ? Donc vous pensez que les animaux ont cet avantage sur nous, c'est de penser que le chemin va toujours continuer ? Ça, on ne sait pas, remarquez.
On ne sait pas, mais je l'ai supposé dans le poème. Et le chemin, d'ailleurs, là, il ne symbolise pas que la mort. Il symbolise effectivement toutes les questions existentielles.
Oui. Alors, vous avez écrit un peu plus loin. Donc, le 12 janvier, le chemin n'est peut-être que le fil de ses pages, ce qui fait signe au quotidien, les clins d'œil de l'herbe ou du ruisseau, les rousses apparitions d'un renard ou d'un écureuil, et ce froid qui se cache aujourd'hui pour mieux revenir demain. Donc là, il y a aussi l'idée que, je crois qu'il faut, d'un carpe diem, il faut aussi
tout
profiter de tout ce que l'on voit, de toutes les beautés de la nature. Hein.
Tout à fait, surtout quand on est poète.
Oui.
C'était d'ailleurs l'époque où je vivais à Krons, dans ce petit village de la Haute-Loire, et j'étais en contact avec la nature, évidemment, davantage qu'en habitant en ville. Et il y a aussi, plus loin, je ne sais plus comment je le formule, mais j'en arrive à la conclusion, c'est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut, qu'au fond, ce qui est important, ça n'est pas forcément de pouvoir répondre à la question « où est le chemin ?», mais de pouvoir la formuler. Mm-hmm. Je crois que l'homme a cette faculté énorme, étonnante, formidable, de pouvoir se poser les bonnes questions, même si, après tout, il n'a pas celle de pouvoir y répondre toujours. Et souvent même.
Oui. C'est-à-dire qu'en anglais, il y a cette expression « to be in pursuit of something ». Ben, c'est bien ça, c'est la notion voilà. De, on est à la poursuite de quelque chose.
On est dans une dynamique, on est vivant.
Oui. Alors, je continue, 13 janvier. Où est le chemin ? D'abord, la distance entre le mot « chemin » et ce qui serait le chemin, ce que vous disiez. Et ces cellules dans nos crânes qui tournent comme des meules de moulin pour moudre un blé absent. La vie, c'est le secret de Maître Cornille. Quelques rouages, du grain parfois, et les autres meuniers de rencontres. Et après, on arrive à cette phrase, « Vivre pour la beauté du geste et pour les cendres ». Donc c'est à la fois vivre pour ce que la vie nous apporte, et aussi en incluant la mort, alors.
Oui, bien sûr, puisque nous n'avons pas le choix.
Oui.
Donc autant l'accepter quelque part, dans la mesure du possible, et traiter avec, je dirais.
Oui, traiter avec, tout en sachant qu'on ne peut rien anticiper hein, et que l'homme n'a pas de prise hein, sur le temps qui passe. Hein. 18 janvier, 30 ans peut-être pour que renaisse un autre petit bois, 30 cercles concentriques à l'intérieur de chaque tronc d'arbre, lentement tournés comme une poterie. 30 ans, mon amour, en quel bois nous trouverons-nous ? Donc on a l'impression que la nature sait plus que nous.
Oui, j'hésite là-dessus. Est-ce que la nature c'est S-A-I-T ou
c'est
S-A-I-T, savoir donc. Est-ce qu'elle sait plus que nous ? Elle dure plus longtemps que nous, voilà ce qu'on peut dire. Alors peut-être qu'on peut lui attribuer ce savoir. Alors par contre, ce poème que vous venez de lire, il est très significatif de la façon dont j'ai écrit Éphéméride.
Oui.
Ce jour-là, c'était tout simplement, ce qui faisait signe, c'était tout simplement le fait que notre voisin avait coupé un petit bois qu'il possédait et que nous avions la chance de voir depuis notre maison. Et soudain, on a découvert cette disparition, cette absence. Et ça s'est traduit immédiatement dans ce poème.
Oui. Finalement, c'est vrai qu'on sent un certain optimisme. Et c'est pour ça que donc, le 7 mars, vous reposez la question, mais de façon peut-être un peu plus angoissée. Je lis à Eliane, cet après-midi, la voisine a cherché la mort, elle ne l'a pas trouvée. Parfois, j'entends ses sanglots, savoir que cette chose vous mange de l'intérieur, la chose... continue son lent et cynique repas. Question récurrente, où est le chemin ? Donc là, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas posé la question. Vous la posez.
Elle s'est certainement posé la question. Eliane était une voisine qui est morte, on l'a compris en écoutant le poème d'un cancer. Elle n'avait que 50 ans et j'avais commencé à me lier avec elle. Et sa mort m'a beaucoup affectée et elle avait cherché effectivement à se suicider. Et j'ai repris en fait l'histoire d'Eliane dans un recueil qui s'appelle « Il faut laisser la porte ouverte dans lequel un épisode entier lui est consacré parce que j'ai trouvé que c'était poignant. Et représentatif aussi de toutes les personnes susceptibles de vivre ça.
Oui. Alors donc, pour faire face, hein, le 8 juin, que peut la poésie ? Pour l'impossible, je persiste.
Oui, ça résume bien ma pensée. Oui.
Voilà, tout à fait.
C'est peut-être un des poèmes les plus importants du recueil, ça, pour moi.
Oui.
Je persiste pour l'impossible, mais peu importe. Enfin, après tout, si ça peut servir, justement. Enfin, la seule chose pour moi, c'est que si ça peut donner un carpe diem, une partie du carpe diem à quelques lecteurs, c'est déjà ça. Et puis, si ça peut donner d'autres petites racines à ceux qui viendront encore quelque temps dans notre civilisation. Lire et écrire à leur tour de la poésie, voilà aussi un des buts, une des consolations.
Oui, et c'est presque une consolation rationnelle, parce que donc, vous expliquez que pourquoi vous persistez aussi.
Et puis je persiste aussi parce que je ne peux pas m'en passer.
Oui, bien sûr. Alors il y a un mot en anglais aussi, là je reviens en anglais, se persister, là on le traduirait par endure, to endure. Hein, voilà, donc c'est pas endurer, c'est s'accrocher, c'est persister. Et bien on va encore écouter un autre petit extrait du Lac des Cygnes. Un passage un petit peu plus léger donc du Lac des Cygnes, hein, donc qui illustre ce désir donc d'imposer, de mettre votre marque, hein, et donc de persister. Et vous le dites aussi, ce qui vous permet de résister face au non-sens. C'est encore autre chose, le non-sens.
Oui, là il y aurait encore beaucoup à dire, parce que le non-sens peut aussi être sens. Enfin,
oui.
Bon, mais là on se lancerait dans des explications longue, compliquée et philosophique que je ne maîtriserai peut-être pas d'ailleurs tout à fait.
Écoutez, merci beaucoup pour cette première émission. Donc, nous allons continuer donc la semaine prochaine. Nous allons continuer avec Éphéméride. Il y a beaucoup à dire. Hein. Donc chaque poème est différent, tout en suivant cette thématique du temps, de la mémoire, hein, et de ce désir donc de persister. Voilà. Donc merci beaucoup, Chantal. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était La Voix des Poètes sur Radio Altitude. À très bientôt.